avec nous. 9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Dans 10 minutes, vos réactions sur la reconfiguration du dispositif militaire français sur le continent africain. Mais d'abord, je vous laisse avec Sébastien Duhamel pour la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. C'est la une justement aujourd'hui, cette cérémonie attendue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour marquer la rétrocession par la France de la base de Port-Boué. Un hommage ensuite au réalisateur malien Souleymane Cissé, décédé hier à Bamako à l'âge de 84 ans. L'est de la RDC, le sud Kivu, où le M23 poursuit son avancée avec l'aide du Rwanda. L'arrestation d'Abdoul Sakou en Guinée, un responsable des forces vives, une voix critique de la junte militaire. Et puis les autorités sénégalaises qui prennent des mesures pour enrayer la violence constatée en marge des combats de lutte, un sport on ne peut plus populaire dans le pays. La cérémonie doit normalement débuter d'ici une petite demi-heure à Abidjan, en présence du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, et de son homologue ivoirien, Téné Biraïma Touré, pour la rétrocession par la France du camp militaire de Port-Boué aux forces ivoiriennes. Aboutissement de 2 ans de discussions, mais sur place, les militaires ivoiriens ont déjà adapté la base ces dernières semaines à leurs besoins et à leur image, Binta Diagne.
Sur ce mur, au niveau du poste de commandement, était marqué « Force française en Côte d'Ivoire ». Ces écritures ont été retirées simplement et à la longue portera poste de commandement « Camp général du corps d'armée ».
Sur la place d'armes, le lieutenant-colonel Roméo Kofi, commandant en second du 1er bataillon du génie de Boaké, supervise les derniers réglages logistiques. Depuis plusieurs semaines, ces hommes repeignent les miradors, construisent un nouveau portique. Les militaires ivoiriens prennent leur marque dans ce camp de 230 hectares. Au poste radio, le capitaine Gauthier, de l'armée de l'air française, est entouré de 3 opérateurs ivoiriens.
Cet écran, c'est la visualisation radar de l'ensemble des avions qui transitent dans la zone, donc à la fois la Côte d'Ivoire, mais également toute la sous-région.
Ce responsable militaire transmet ses connaissances aux opérateurs radio ivoiriens.
Nous entamons une démarche de partage de connaissances dans le but, à terme, d'être interopérable sur ce domaine radio.
Le 16 avril 2023, une commission mixte est créée pour entamer les discussions sur le transfert du camp de Port-Boué et sur l'évolution de la coopération militaire. L'accent est mis sur la formation ainsi que sur les exercices en commun, comme l'explique le colonel Hiver, qui commande le détachement interarmé de Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, le cœur de notre coopération, c'est des entraînements en commun. Tout le monde apporte à tout le monde, parce que c'est des occasions d'entraînement qu'on ne trouve pas ailleurs.
Après les discours officiels, les 2 ministres de la Défense procéderont aujourd'hui à la signature de conventions au sujet de la coopération militaire entre les 2 pays. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
C'était l'un des pères du cinéma africain. Le réalisateur malien Souleymane Cissé est mort hier à Bamako. Il avait 84 ans. Il devait d'ailleurs présider le jury du FESPACO, le festival de Ouagadougou, dont la 29e édition s'ouvrira après-demain. Mais le rendez-vous se tiendra donc malheureusement sans lui. Souleymane Cissé, le premier cinéaste d'Afrique subsaharienne primé à Cannes avec le prix du jury, décroché en 1987 pour son long métrage Yélène. Un festival en France qu'il fréquentera ensuite à plusieurs reprises. Le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun s'en souvient très bien et il lui rend hommage ce matin sur RFI.
Je garde en souvenir Cissé sur la croisette, cette icône, en fait, cette image iconique de Cissé dans son grand boubou blanc. On pouvait le reconnaître entre des centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est l'image que je garde de lui. D'ailleurs, Cannes ne s'est pas trompé parce que quand il y a eu à un moment donné, je ne sais plus quel anniversaire du Festival de Cannes, il y avait Cissé, c'était le seul qui représentait l'Afrique et il était dans ce boubou blanc, on dirait un ange dans cette foule sur la croisette et je pouvais le repérer à 1000 lieues et ça c'est l'image que je garde de lui, comme quelqu'un de pur en fait et de d'angélique. Moi j'adorais son rire et son sourire parce que à chaque fois que je le rencontrais c'était ça d'abord, quoi. Cette espèce de luminosité qu'il avait dans les yeux et ça je pense que c'est la passion non seulement du cinéma mais de la vie, c'était quelqu'un de très positif.
Un hommage du réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun à Souleymane Cissé qui nous a donc quitté à l'âge de 84 ans. Dans l'est de la RDC, les éléments du M23 poursuivent donc leur progression au sud Kivu. Aux côtés de leurs alliés rwandais, ils semblent se diriger désormais vers la 2e grande agglomération de la province, Uvira, après avoir déjà pris le contrôle du chef-lieu Bukavu dimanche, où cette guerre laisse des traces. Sur place à Bukavu, l'heure est maintenant au ramassage des armes qui ont été abandonnées dans la ville, abandonnées par les militaires congolais lors de leur retrait ou des armes distribuées. Certaines auraient même été ramassées par des enfants, Alexandra Bronjon.
Depuis lundi, des dizaines de volontaires sillonnent la ville de Bukavu pour ramasser ses armes abandonnées. Sadiki, la vingtaine, est motard. Il s'est joint au nettoyage du quartier Nyalukemba.
J'ai transporté vers le camp Sayo 180 armes que nous avons ramassées, qui étaient utilisées par des enfants. Nous étions une équipe de motards. Pour nous remercier, le M23 nous a donné deux sacs de farine de 25 kilos chacun. À l'entrée du camp Sayo vers le cimetière, nous avons ramassé 16 armes abandonnées dans une guérite. Il y en avait aussi dans le cimetière.
Pour le pasteur Albert Migabo Nyagaza, qui coordonne l'opération avec une vingtaine de chefs de quartier, le temps presse.
Aujourd'hui, nous pouvons déjà compter au moins 200 armes qui ont été ramassées et déposées déjà dans les cas militaires. Nous avons ramassé aussi des bombes, des cartouches, il y avait des uniformes militaires. Il y a aussi des Motorola qui ont été jetés. L'opération n'est pas encore finie. Nous continuons toujours à regretter comment ces armes-là pouvaient se retrouver dans les mains des enfants de 15 à 17 ans au moins. Et ça a été une surprise pour nous.
Le pasteur interpelle ses concitoyens face au danger de ces armes qui circulent en ville. En 3 jours, 4 personnes ont été tués par des enfants, dit-il, appelant ceux qui cachent encore des armes à les ramener au camp militaire.
Et dans ce contexte, dans l'est de la RDC, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une nouvelle fois réuni en urgence hier. La RDC continue d'y réclamer des sanctions contre le M23 et contre le Rwanda. Mais la réunion qui a duré plus de 3 heures s'est à nouveau refermée sans consensus et donc sans décision concrète. Nous l'évoquions brièvement hier matin. On revient à présent sur l'arrestation en Guinée d'Abdoul Sakho, un des responsables des forces vives de Guinée, coalition des principaux partis de syndicats, d'organisations non gouvernementales qui réclament un retour des civils au pouvoir. Il a été interpellé mercredi matin, Abdoul Sakho, par des hommes encagoulés à son domicile en banlieue de Conakry. C'est ce que rapportent sa famille et son avocat, Mouktarba.
Un nombre indéterminé d'hommes en uniforme et encagoulés, selon sa famille, ont tenté de forcer la porte d'entrée sans y parvenir. Un petit groupe a finalement réussi à défoncer le plafond par la terrasse pour cueillir l'activiste Abdoul Sakho. Son épouse Oumoubari, encore sous le choc, raconte.
Le monsieur m'a dit, madame, ouvrez la porte. Il dit, ouvrez la porte, vous allez nous tuer. J'ai refusé. Ils ont tout fait avec la porte, là, ils n'ont pas pu ouvrir. Ils ont défoncé le plafond, ils sont rentrés, ils sont descendus. Il n'y avait pas où sortir Sakho. Les kidnappeurs ont dit, on ne savait pas d'ouvrir la porte. Il a dit, ah, moi je priais. On lui a giflé, on lui a jeté par terre et puis on lui a attaché, on lui a envoyé. Ils ont demandé les téléphones, ils sont partis. Ils étaient tous cagoulés. Ils avaient des pistolets, des fusils.
Les défenseurs des droits de l'homme, sans nouvelles de l'activiste, sont vent debout, dénoncent cet enlèvement et exigent sa libération. Ibrahim Balaya Diallo.
Nous dénonçons avec la plus grande fermeté cette disparition forcée et exigeons la libération immédiate et sans condition d'Abdoul Sakho. Des explications claires des autorités sur les circonstances de son enlèvement et de son lieu de détention. La fin des actes d'intimidation et de harcèlement contre les militants de la société civile en Guinée.
Après les leaders du FN, NDC, Funiki Mangé et Biloba, l'économiste Sadou Nimaga et le journaliste Marwan Kamara, Abdoul Sakho figurent désormais sur la liste des personnes kidnappées dont on est sans nouvelles. Mokhtarba Conakry, RFI.
Au Sénégal, la police nationale suspend jusqu'à nouvel ordre la gestion de la sécurité des combats de lutte. Décision qui intervient après de nouveaux incidents dimanche lors d'un événement sportif, la mort d'un supporter notamment. Dans la foulée, la Commission nationale des droits de l'homme sénégalaise a appelé à suspendre provisoirement les combats de lutte, le temps de prendre des mesures, alors que de nombreux galas de ce sport hyper populaire sont programmés dans les prochains jours. À Dakar, explication de Léa Lisa Vesterov.
À l'origine des problèmes, la survente de billets pour assister au combat de lutte dimanche dernier à l'arène nationale. D'une capacité maximale de 25 000 personnes, c'est lorsque la police a interdit les spectateurs en surnombre d'entrées que la violence a éclaté, avec des actes de vandalisme et des dégradations, et plus tard dans la soirée, l'agression mortelle d'un jeune à quelques kilomètres de l'arène, dans la banlieue dakaroise. Après la décision de la police de ne plus assurer la sécurité et de suspendre les combats à venir, le comité de gestion de la lutte s'est immédiatement réuni ce mercredi. Proposition a été faite de créer une commission chargée de vérifier la billetterie et de limiter la vente à 22 000 tickets maximum. Idem pour les horaires. Avancé à 16h30 pour le premier combat, le dernier devra se terminer à 19h maximum, assure le comité de gestion qui a remis un document au ministère de l'Intérieur. L'objectif, que les autorités reviennent sur leurs décisions et autorisent les derniers combats programmés avant la pause du Ramadan. Les enjeux financiers sont importants pour les organisateurs de ces combats de lutte très populaires, mais également pour les lutteurs eux-mêmes et toute l'économie informelle qui gravite autour de ce sport national. Des rencontres sont programmées presque chaque jour jusqu'à mercredi prochain. prochain. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Dakar où il est 8h passées de 40 minutes. On retrouve bien sûr l'excellent Juan Gomez
merci
pour
rappeler
sur l'actualité.
Très bonne journée.